Chapitre 61. Juillet 2018. Rachel était retournée à Nice, à l'hôtel, où elle avait immédiatement retiré ses vêtements et pris une douche de 10 minutes pour se laver de la sueur de la journée et de sa rencontre avec Michael. Elle n'avait pas prévu de dire tout ce qu'elle avait dit. Elle aurait voulu être calme, rester plus longtemps pour le faire parler de ses finances. Mais elle avait réussi à obtenir beaucoup d'informations pendant les 15 minutes qu'elle avait passées dans son bureau. Bien plus que ce qu'elle espérait, et elle se sentait en paix avec ses paroles. Mais ce n'était pas assez, loin de là, pas tant qu'il avait encore les 600 000 livres de son père, et que la Maserati rouge était ostensiblement garée devant la maison, et que, dès qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ses images ignobles et la silhouette courbée de honte de son père dans son petit bureau douillet pendant qu'elle les découvrait sur l'ordinateur. Elle enfila une longue jupe bleue soyeuse et un débardeur noir, mit son sac en bandoulière sur son épaule et sortit dans la nuit suffocante. Le centre de Nice était très différent de ce qu'elle en avait vu en février. La musique résonnait à chaque coin de rue, devant les restaurants, les manèges, on croisait des dizaines de musiciens et d'artistes sur chaque place. Les serveurs agitaient leurs menus sous son nez et cherchaient à l'attirer dans leur établissement et, sur l'une des places principales, Rachel se laissa tenter par un serveur à longues dreadlocks grises dont la chemise blanche ne cachait pas l'embonpoint prononcé. Elle opta pour un steak minute avec des frites et un quart de vin blanc recommandé par le serveur. Cet homme plus âgé la couvait, débordait d'attention à son égard et la regardait comme un potentiel prédateur sexuel, mais elle n'en avait que faire. Elle était un galet qui reposait au fond d'un lac regorgeant de poissons. Elle était solide, inamovible, concentrée. Son téléphone vibra. Un courriel de Jonathan. Ses contacts étaient encore en train d'analyser ce qu'elle lui avait envoyé tout à l'heure. Rien de concret pour le moment. Elle commanda un verre de vin et une part de tarte au chocolat. Puis, dans le chaos sonore de la place, elle reconnut un son. Les premières notes de Titanium au violon. Rachel repoussa l'assiette de son gâteau, vida d'un trait son verre, paya la note et quitta le restaurant en 4e vitesse. Lucie faisait peur à voir. Si maigre, débraillée, les lèvres desséchées. Les enfants n'étaient guère mieux. Rachel s'approcha, les bras serrés autour du corps. Un petit public écoutait Lucie. Rachel vit des pièces atterrir dans son chapeau retourné. Elle passa rapidement et jeta un billet de 20 € sans la regarder. Lucie lui cria merci, mais Rachel s'éloigna et continua à l'observer à l'opposé de la place, jusqu'à ce qu'à 22 h, Lucie referme son étui, transvase l'argent du chapeau dans son porte-monnaie, tende l'instrument, le tapis de yoga et le chien à son fils, réveille sa fille endormie et qu'ils se mettent tous les 4 en route vers la maison bleue sur la colline du château. Lucie frappa à la porte, et le visage du concierge de la petite fenêtre au pied de la bâtisse s'illumina en les reconnaissant. Il alla ouvrir immédiatement.
« Ma fille, mes enfants, mon chien, entrez !»
L'avion de Rachel décollait dans la soirée. Après un petit déjeuner dominical tardif, elle fit son sac, le déposa à la réception et prit un Uber jusqu'à Antibes. Jonathan l'avait appelé 1 heure plus tôt pour lui confirmer que le titulaire du compte PMX était lié à la société MCR International, l'entreprise de Michael.
C'est vraiment lui, alors?
Oui, c'est une certitude. Tu veux que je contacte la police?
Rachel avait hésité. Non, je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire. J'ai besoin d'y réfléchir.
Une fois dans la voiture, Rachel savait pertinemment ce qu'elle allait faire. Elle allait retourner chez Michael tout de suite, elle allait prendre le pistolet dans le tiroir de son bureau, et elle allait lui coller sur la tempe jusqu'à ce qu'il rembourse chaque centime de l'argent de son père. Chaque centime. La gouvernante, lui avait-il dit, ne travaillait pas les dimanches. Tant mieux, ils auraient la maison rien que pour eux. Le taxi la déposa sur la route principale, et elle s'avança dans la ruelle pavée où se trouvait la maison de Michael. La Maserati rouge était toujours là. Les rideaux étaient ouverts, il flottait dans l'air une odeur de barbecue. Rachel jeta un coup d'œil par la fenêtre à côté de la porte d'entrée, vit un mouvement et s'accroupit. Elle eut l'envie d'abandonner, mais elle continua. Elle attendit quelques minutes, puis se dirigea jusqu'au portillon sur le côté de la maison et ouvrit le loquet. Elle suivit le chemin jusqu'à l'éclat bleu de la piscine, jusqu'aux oiseaux colorés qui étaient perchés sur les feuilles des bananiers, jusqu'au sphinx colibri voltant au-dessus des buissons de lavande. Dans cette oasis somptueuse et parfaite au cœur de la ville, l'atmosphère était sombre et étouffante. Elle lança un coup d'œil par les grandes baies vitrées de la cuisine et elle crut voir Joy, la gouvernante, en plein ménage. Il y avait une femme brune qui portait des gants en plastique, aspergeait les surfaces de javel, récurait avec vigueur. Celle-ci souleva un tas de tissus écarlates et Rachel comprit que ce n'étaient pas des torchons rouges, mais quelque chose qui avait été teinté. Elle remonta la trace sur le sol jusqu'à ce qui ressemblait à un pied. Un pied nu, bronzé, avec quelques poils. Un pied qui ne lui était pas étranger. Elle l'aurait reconnu entre mille. Il avait de si jolis pieds, Michael. La femme se tourna légèrement, et Rachel s'aperçut stupéfaite que ce n'était pas Joy, mais Lucie. Et elle l'observa sans bouger, la peur au ventre et le cœur ravi, enrouler le corps de Michael dans un drap, avant de le glisser dans deux grands sacs en plastique. Lucie le tira sur le carrelage froid de granit blanc hors du séjour et dans l'arrière-cuisine, cette pièce dans laquelle Joy se trouvait l'autre jour pendant qu'elle discutait avec Michael. Quelques instants plus tard, Lucie en ressortit et se remit à asperger, à récurer, à fourrer un nombre infini de torchons écarlates dans un sac posé au sol. Enfin, au bout d'une demi-heure, elle retira ses gants en plastique, les jeta dans le sac poubelle et fit un nœud. Une minute après, Rachel entendit la porte de la maison claquer. Elle resta plantée là, en silence. Son souffle coincé quelque part entre son ventre et sa gorge. Que venait-elle de voir? Était-ce vraiment réel? Lucie avait tué Michael? Non, c'était impossible. Enfin, elle reprit possession de son corps, remua ses épaules paralysées et s'approcha de quelques pas. Elle sortit un mouchoir de son sac pour faire coulisser la baie vitrée qui s'ouvrit facilement. Elle repéra les claquettes de Michael près de la porte et les enfila en laissant ses sandales dans le jardin. Lentement, sans un bruit, elle s'introduisit dans le salon, cherchant à comprendre au fil des pièces ce qui avait pu se produire. Mais la maison était parfaitement rangée, immaculée. La cuisine brillait, le lave-vaisselle ronronnait, il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit de suspicieux. Une excitation malsaine coulait dans ses veines. Quel drame, quelle merveille, quelle putain d'héroïne, Lucie l'avait tuée. Elle avait attendu son heure, elle l'avait retrouvée, elle l'avait assassinée, et maintenant il ne pourrait plus jamais faire de mal à une femme. Le cœur de Rachel battait sous l'effet de l'adrénaline, de la nausée, de la sidération. Elle se rendit ensuite compte que si Lucie avait des raisons de vouloir tuer Michael, elle en avait tout autant. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'aurait vraiment pas dû être là. Mais elle avait besoin de le voir. Elle avait besoin de s'assurer qu'il n'était plus de ce monde. Alors, en toute discrétion, elle s'aventura dans l'arrière-cuisine, une sorte de buanderie avec un modeste escalier qui menait au sous-sol. Elle alluma la lumière et descendit les marches rapidement. Elle se retrouva dans une cave à vin dont les murs étaient décorés de photographies de grappes de raisin et de logos de vignobles. Il y avait un petit bar vitré avec deux tabourets en bois et une rangée de verres à pied sur une étagère à côté d'un miroir ancien où était gravé un motif art nouveau. Michael était là, dans son linceul de plastique noir. Les sacs n'étaient pas fermés et Rachel se baissa pour en écarter un pan avec un mouchoir. Elle vit son ventre, des tourbillons de poils figés par le sang coagulé. Le bout de ses doigts sans vie, son t-shirt relevé sur son torse, la béance de sa gorge et la mâchoire grande ouverte, la bouche décalée sur le côté, les yeux qui la fixaient. Elle rabaissa le sac et le laissa là, se retournant en haut de l'escalier pour lui jeter un ultime regard. « Pathétique, » se dit-elle, « pitoyable. » Dans la cuisine, elle se débarrassa des claquettes de Michael, remit ses sandales, referma la baie coulissante derrière elle avec le mouchoir et avança dans l'allée pavée et puis les rues bondées vers le taxi qui la ramena à l'hôtel où elle récupéra son bagage à la réception et se mit en route pour l'aéroport.